Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce lundi est une journée importante pour tout le monde ici au Mali en principe. Enfants, parents, autorités, la raison, c'est naturellement la reprise des classes. Ici donc très nombreux, les enfants maliens à reprendre ce matin le chemin de l'école. Un moment de joie certes, mais aussi un moment de questionnement. Comment s'annonce la nouvelle année scolaire? L'acquisition du matériel didactique pose-t-elle au problème? Pourquoi le choix du thème retour aux valeurs du travail et du mérite? La phrase ne va-t-elle pas servir de simple slogan s'il advenait qu'elle ne repose sur aucune réalité? Quels sont les défis majeurs que les établissements maliens sont appelés à relever aussi bien au niveau du public que du privé? Ce sont ces interrogations et bien d'autres que nous allons adresser à nos invités qui sont au nombre de trois. Il s'agit de Kumba Yarissi qui est présente dans ce studio et l'ancienne conseillère au ministère de l'éducation enseignante à la retraite. Nous avons également dans ce studio Soumaïla Hachmaïga qui est le secrétaire général.
Le secrétaire chargé à la formation du SNEC.
Voilà. Il est donc secrétaire chargé à la formation au niveau du SNEC. Le troisième invité, lui, est en ligne. Il est donc au nord. Il s'appelle Mohamed Aguissa. Il est le porte-parole du collectif du syndicat de l'enseignement secondaire des régions du Nord.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. La rentrée scolaire est un événement qui ne laisse personne indifférent, puisque c'est en principe l'affaire de tous. La rentrée est effective depuis ce matin, un peu partout au Mali, à quelques exceptions près. Que ressentez-vous ces premiers jours de l'année scolaire 2016-2017? Je pose la question à vous, Kumba Yarissi.
Bonjour, j'aimerais rectifier un tout petit peu. J'ai pas été conseillère, j'ai été plutôt chargée de mission au ministère de l'Éducation. Ceci dit, je commencerai, si vous voulez bien, par souhaiter bonne chance au monde éducatif dans son ensemble. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour les familles. Pour les familles, pourquoi, Monsieur Fomba? Les familles parce que depuis plusieurs années déjà, les familles se saignent pour accompagner leurs enfants, nonobstant ce qu'on dit, les familles ont démissionné, les familles n'ont pas fait ci. Et je crois qu'au cours du débat, on va revenir là-dessus. Donc j'ai une pensée vraiment pour les familles et notamment pour les mères de famille.
Mm-hmm. Alors, Mohamed Hachmaïga, vous qui êtes donc du SNEC, qu'est-ce que vous ressentez?
Je rectifie, c'est Soumaïla Hachmaïga.
Soumaïla Hachmaïga, oui.
Le secteur de la formation, à la recherche et aux questions académiques du syndicat national de l'éducation et de la culture. Je rejoins ma voix à la voix de madame pour dire qu'aujourd'hui c'est un jour heureux où enfants et enseignants se retrouvent après 3 mois de vacances. Mais aussi c'est un jour d'interrogation parce que dans la majorité des écoles maliennes, aujourd'hui il y a la crise d'enseignants. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants dans les écoles pour encadrer ces milliers d'élèves. Ensuite, il y a beaucoup d'enseignants aussi qui vivent de la précarité. Donc c'est un moment de joie, mais c'est aussi un moment d'angoisse. Donc je m'arrête là avant que les choses ne commencent.
Mm-hmm. Alors, allons vers le nord, c'est pour retrouver Mohamed Aguissa. Lui, il est le porte-parole du collectif des syndicats de l'enseignement secondaire des régions du Nord. Mohamed Aguissa, ce jour, premier jour de l'année scolaire 2016-2017, qu'est-ce que vous ressentez?
Merci pour cette occasion que nous vous offrez de nous adresser à l'opinion nationale, à nos concitoyens, n'est-ce pas, en ce jour, comme vous l'avez si bien dit, qui est quand même un jour de fête pour l'ensemble du peuple malien, sauf que malheureusement, ce n'est pas la fête chez nous, parce que, comme l'a si bien dit Maïga, nous sommes dans la précarité, et c'est regrettable de le dire, nous avons, au niveau de l'enseignement secondaire, n'est-ce pas, pris en otage cette rentrée-là, symboliquement en otage pour le 3 et 4 octobre, pour mettre suffisamment la lumière, en tout cas, sur nos préoccupations pour attirer l'attention de tout le monde avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il y a une non-évaluation qui est là. Et si rien n'est fait, cette non-évaluation risque de nous faire perdre toute l'année. Que Dieu nous en préserve.
Voilà, nous allons vous retrouver dans un instant. Retour dans ce studio. Dites-nous, Madame Koumba, hier, la rentrée scolaire, ça se prépare. La rentrée, ça commande, ça demande des dépenses. Les préparatifs ont-ils été faciles cette année?
C'est pas que cette année. Les années se ressemblent. Les années se ressemblent. Et il faudrait plutôt qu'on essaye d'innover, de voir dans quelle mesure on peut soulager les femmes ou les familles. Vous savez, M. Fomba, il y a quelques années, la Banque africaine de développement a fait une étude sur la diaspora malienne. Tout le monde est d'accord pour dire que ce que la diaspora malienne envoie par an est l'équivalent de l'aide publique au développement. Mais est-ce que vous savez que le deuxième poste de dépense de cet argent-là est consacré à l'éducation des enfants, à la formation des enfants? Et c'est pas rare de voir, on est ici à Bamako, c'est une grande ville, même dans les villes moyennes aujourd'hui, c'est pas rare de voir les parents se saigner pour faire prendre à leurs enfants des heures supplémentaires à la maison. Et c'est lourd, c'est lourd.
Soumaïla Hachemaïga, les préparatifs cette année, ça a été comme les années précédentes?
Oui, avec madame, comme madame l'a dit, les années se ressemblent. Les préparatifs de cette année, vraiment, cette année, comme madame l'a dit, les dépenses ont été encore plus folles. Les parents, avec cette crise que notre pays traverse, avec les différentes fêtes, aussi, la fête de Tabaski, que les gens ont traversé tout de suite. Et tout de suite, c'est la rentrée. Vraiment, la rentrée a coûté cher au Malien Lambda, si on peut le dire ainsi. Mais une fois de plus, nous, en tant qu'enseignants, parce que c'est notre métier, nous sommes contents quand même de reprendre les cours, de voir nos élèves, et nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes, et comme on l'a toujours fait. Merci bien.
Alors, du côté du Nord, nous retrouvons encore Mohamed Aguissa. Mohamed Aguissa, comment ça s'est passé chez vous, la rentrée? Comment on l'a préparé? Est-ce que ça a posé problème?
Bon, j'ai dit que les préparatifs, c'est pour vous, les Bamakois. Nous, on n'en parle pas. Parce que nous, on n'a pas encore été payés. Ça, je suis dans le regret de vous le dire.
Vous n'avez pas, vous dites?
Mais, jusque-là, on n'a pas perçu nos salaires du mois de septembre au Nord. Les enseignants, des collectivités. Donc nous, on ne parle pas des préparatifs, on cherche à manger quoi, du quotidien. Après, on va gérer.
Alors, vous êtes enseignant, vous êtes en même temps parent, forcément, vous avez des enfants aussi qui vont à l'école. C'est vrai, il y a des difficultés, mais il faut payer le matériel scolaire.
Mais ce que je vous dis, c'est malheureux aujourd'hui. Et nous souffrons de cette injustice-là, et ça fait partie de nos points de revendication. Le retard dans le paiement des salaires par rapport aux autres fonctionnaires, par rapport à nos collègues du site, nous percevons toujours nos salaires en retard. Les fêtes, les rentrées scolaires, tout ça, généralement, on ne les passe sans les moindres sous. Je vous le dis, ce n'est pas parce que je vais enfoncer les couteaux dans la plaie ou bien pour faire des surenchères. Vous pouvez appeler n'importe quel enseignant, il vous dira qu'il n'a pas été payé. Et nos femmes et nos enfants sont affectés par cette situation. Leur seul péché, c'est d'être l'épouse ou l'enfant d'un enseignant de collectivité qui a le malheur de servir dans la partie, en tout cas la moins nantie de ce pays-là.
Est-ce que cela veut dire que pour les parents...
Non, je vous dis, monsieur, ce que nous mettons dans la marmite, là, on ne va pas prendre ça pour préparer la rentrée. Je vous dis, c'est la réalité.
Est-ce que cela veut dire que pour l'instant, pour les enfants, il n'y a ni cahier, ni livre, ni rien?
Rien n'est fait, n'ont rien réussi, parce qu'ils ont la malchance d'être des enfants, des pauvres enseignants qui servent dans la partie, n'est-ce pas, la moins nantie du pays.
Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La rentrée scolaire qui est effective au Mali depuis ce matin, c'est de cet événement que nous parlons dans le grand dialogue de ce lundi. Alors, à chaque rentrée, on l'a constaté, son thème, celui retenu cette année est le retour aux valeurs du travail et du mérite afin de restaurer la grandeur de l'école malienne. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'il ne s'agisse que d'un simple slogan ou alors croyez-vous qu'il s'agit vraiment d'une véritable volonté de franchir un cap nouveau, nettement plus qualitatif? Madame Koumbaya ici.
Bon. Un nouveau cap, ce sera souhaitable. Ce que je viens d'entendre maintenant m'a donné la chair de poule. Parce que les nations, les grandes nations, se distinguent des autres quand elles valorisent tous ses enfants. Travailler au Nord aujourd'hui, bon, je ne suis pas l'avocate. Du professeur qui est au bout du fil. Mais travailler au Nord aujourd'hui est plus qu'un sacerdoce, parce que l'enseignement déjà est un sacerdoce. Et si le département vraiment peut tout mettre en œuvre pour que cette sempiternelle question de fonctionnaires des collectivités soit résolue, ce serait une très bonne chose parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années. Les salaires sont prévus dans les budgets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent s'entendre avec les banques peut-être pour régler toutes ces questions parce que c'est difficile déjà de travailler au Nord. C'est encore plus difficile d'être sevré de cette façon-là.
Il y a donc vraiment problème pour les parents au Nord, en fait des problèmes assez spécifiques. Nous donnons maintenant la parole à vous, Soumaïla H. Maïgavou, qui est donc du SNEC. Alors, on revient sur le thème, le retour aux valeurs du travail et du mérite. Est-ce que vous y croyez vraiment?
Bien, le retour aux valeurs, nous y croyons. Parce que nous étions en négociation depuis le 15 août avec le gouvernement et parmi nos points de revendication figure en bonne place et ce slogan qui vient d'être lancé. Parce que nous pensons que pour qu'aujourd'hui l'enseignant malien puisse donner le meilleur de lui-même, il faut qu'après le grand sacrifice que l'enseignant a eu à faire pendant l'année scolaire, pendant l'année académique, qu'on récompense ceux qui ont bien mérité, ceux qui ont bien travaillé.
Alors, vous avez dit slogan, parlant donc de la phrase « Le retour aux valeurs du oui. travail et du mérite ».
Voilà.
Alors, il sonne quand même très fort ce slogan. Est-ce qu'il semble réaliste, à votre avis?
Bon, comme c'est ce que j'ai dit, ce slogan ne peut avoir de valeur que lorsque le gouvernement et l'ensemble du peuple malien donne de la valeur à ce slogan-là. En tout cas, nous, on sait, au niveau du SNEC, nous croyons que si aujourd'hui on donne de la valeur à l'enseignant, on donne de la valeur à la fonction enseignante et qu'on valorise les enseignants les plus méritants, nous pensons que les choses vont changer.
Alors ici, il faut valoriser les enseignants les plus méritants, mais il faut certainement valoriser aussi les élèves les plus méritants, puisqu'apparemment, ça n'a pas toujours été le cas.
Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être que l'État veut se corriger. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes heureux. Si l'État veut se corriger, nous sommes très heureux. Les enseignants ont toujours saigné, ou bien ont toujours sué sous la pluie, comme on le dit, en jargon vernaculaire. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, mais leur travail n'est jamais vu et n'est jamais récompensé. Et si l'État pense aujourd'hui qu'il faut récompenser les méritants, élèves, enseignants, nous croyons que c'est un slogan qui, vraiment, si l'ensemble du peuple malien se donne la main, peut vraiment bien voir le jour. Pour revenir à ce que le camarade du Nord a dit, je suis entièrement d'accord avec lui. Nous avons décrié cette fonction publique des collectivités. Nous l'avons décrié, et peut-être on n'a pas été entendu par le gouvernement, Mais aujourd'hui, ce qui a été créé depuis longtemps est en train de nous rattraper. Nous avons dit que cette fonction publique des collectivités, nous constatons chaque fois qu'il y a salaire, que c'est les salaires des enseignants des collectivités qui sont en retard. Alors que l'enseignant, tout le monde sait, ne vit que de son salaire. Si ce salaire ne vient pas à temps, ça pose problème. C'est pourquoi chaque fois les enseignants débrayent, pour cause de salaire, pour cause d'avancement, pour cause d'hiérarchisation. Je suis d'accord avec nos camarades vraiment du Nord. Si jusqu'à présent ils n'ont pas leur salaire, vraiment, je demande, c'est un cri de cœur que je lance au gouvernement. D'abord, la zone dans laquelle ils sont, c'est une zone difficile. Ce n'est pas n'importe qui peut vivre dans cette zone avec cette insécurité grandissante, mais des gens qui ont accepté, fait le sacrifice, se donner pour sauver des enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est des enfants qui sont en train de sauver. En sauvant ces enfants maliens, en acceptant de les enseigner, on enseigne le peuple malien, on éduque le peuple malien et on travaille l'avenir, on prépare l'avenir, disons. Donc je crois que ces enseignants méritent peut-être que dès demain, que leur salaire leur parvienne, afin qu'eux aussi puissent fêter, comme à Bamako ici nous sommes en train de fêter la rentrée scolaire. Merci.
Mohamed Aguissa, on apprenait justement que le syndicat du collectif des enseignants du secondaire des régions du Nord observait une grève de 48 heures. Pourtant, il semblerait que la rentrée est effective à Gao et à Tombouctou. Est-ce qu'on peut dire que la situation s'est à présent décantée?
À quel ordre, à quel niveau d'abord? Il faut faire la précision. J'ai pu vous assurer qu'au niveau de l'enseignement secondaire, le mot d'ordre a été suivi à 100%, aussi bien à Gao qu'à Tombouctou. Certainement qu'au niveau du fondamental, des gens sont rentrés, ça c'est possible. Mais là, ce n'est pas mon domaine. Moi, j'évolue au niveau de l'enseignement secondaire. Et à notre niveau, le mot d'ordre est suivi, vous pouvez le vérifier, vous pouvez appeler n'importe qui à Tombouctou, à Gao.
Donc vous maintenez les 48 heures?
C'est 48 heures.
Vous les maintenez?
On les maintient. On les maintient.
Alors, un mot de vos revendications, s'il vous plaît.
Permettez-moi d'abord vraiment le soutien de madame et de monsieur Maga. Vraiment, ça nous va droit au cœur. On sait que dans ce pays-là, vraiment, il y a des hommes et des femmes de grandes valeurs qui comprennent, qui sont sensibles, et vraiment ça nous va droit au cœur. Et on espère que vraiment avec ce passage au niveau de votre antenne, avec pratiquement tout ce qui a été dit, il y aura vraiment un changement. Mais par rapport, je vais revenir d'abord par rapport à ce que le monsieur le ministre, par rapport au retour des valeurs là. Moi je pense que comme madame l'a dit, on souhaiterait qu'il en soit ainsi, parce que c'est l'idéal. Mais moi, je pense que quand vous êtes une autorité et que vous avez l'intention de réformer une situation, de redresser quelque chose qui ne va pas, vous devez impliquer tous les acteurs. La question que je pose à monsieur le ministre, ce retour aux valeurs-là, il a planifié avec qui? En tout cas, il a impliqué. Quels sont les acteurs? En tout cas, nous, syndicats, on n'a pas été impliqués.
Est-ce que vous pensez vous avez l'impression que c'est un simple slogan?
Il y a une feuille de route qui dit exactement qui doit faire quoi pour qu'il en soit ainsi. C'est là le problème. Il s'agit de dire la faisabilité de la chose. Et la faisabilité, c'est avec tous les acteurs. Tous les acteurs doivent participer pour voir de quoi c'est notre bien à nous tous. Ce n'est pas seulement à monsieur le ministre de dire, bon, voilà comment on doit le faire. C'est en impliquant tous les partenaires. Et ça, je sais que ça n'a pas été fait. Donc, c'est ce qui me laisse...
Vous avez l'impression que ça ne repose sur rien?
Voilà, que ça ne repose sur rien. Que c'est plutôt un tâtonnement, une déclaration, et tout simplement un slogan. Mais en réalité, il n'y a rien qui sous-tend, aucune volonté en réalité, qui sous-tend en réalité cette déclaration-là. Parce que
Mohamed Aguissa, nous allons vous retrouver. Nous allons vous retrouver.
Travaille en amont avec nous pour que cette année-là, en réalité, il en soit ainsi, mais il ne l'a pas fait. On ne peut pas attendre le premier jour de la rentrée pour se lever, faire une déclaration et dire que bon, cette année, on va retourner aux valeurs. Il avait toutes les grandes vacances pour
appeler. Je crois que les auditeurs vous ont compris. Nous allons vous retrouver dans un instant. Nous retournons dans ce studio. Nous adressons à vous, Kumba Yaresine. Le syllabaire qui signe son retour cette année, est-ce qu'il faut s'en réjouir?
Bon, le syllabaire en tant que approche pédagogique, c'est ce qu'on a toujours connu. Que le syllabaire revienne, ça a été demandé par les enseignants il y a plusieurs années. Et au cours du forum sur l'éducation en 2008, je crois que il avait été consigné dans les recommandations qu'il en serait ainsi. Sur la forme, c'est une très bonne chose. Parce que de toute façon, tous ceux qui ont enseigné le français savent que pour expliquer une règle d'orthographe, par exemple, il faut toujours, on se réfère à la syllabe. Donc, il faut découper les mots en syllabes, etc., etc. Donc, le syllabaire, comme approche pédagogique, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, sur le fond, en ce qui concerne les livres, les documents, le syllabaire, la première année, c'est le syllabaire. Ensuite, c'est Mamadou et Binetta sont devenus grands. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce que le département a pris comme disposition? On revient au syllabaire, c'est très bien, mais le fond, qu'est-ce qu'on met dans les livres maintenant? Parce que le syllabaire, moi j'ai appris avec le syllabaire il y a plus de 50 ans. Est-ce que ma petite fille, mon petit-fils peut, est confronté au même défi que moi? La société a évolué, les défis se sont complexifiés. Il faudrait maintenant voir du côté de la direction de la pédagogie ce qu'on va mettre dans ces livres-là aujourd'hui.
Mmh. Mohamed Asmaïga.
Oui, merci bien. Bon, l'amateur syllabique, c'est une bonne approche. Qu'elle soit de retour, nous l'avons toujours souhaité. Mais comme madame l'a dit, pour une méthode, vous avez la forme et vous avez aussi le fond. La forme, c'est le retour de la méthode. Mais le fond, c'est quoi? Je vais encore plus loin, puisque madame, je suis enseignant. Et le fond, c'est quoi? Le fond, c'est la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants que nous avons sur le terrain, est-ce qu'ils sont formés à cette méthode syllabique?
Vous parlez encore des enseignants des collectivités ou alors?
Oui, il y a des enseignants des collectivités, parce que quand on parle d'enseignants, il y a des enseignants des collectivités, il y a des enseignants qui sont aussi des fonctionnaires de l'État, il y a aussi des enseignants des écoles communautaires, il y a aussi des enseignants des écoles privées. Donc quand je parle d'enseignants, je parle de l'ensemble des enseignants, parce que mon syndicat regorge l'ensemble des enseignants, il regroupe l'ensemble des enseignants.
Vous n'êtes pas sûr que ces enseignants en fait maîtrisent la méthode syllabique?
Ces enseignants ne maîtrisent pas. Je le dis, ces enseignants ne maîtrisent pas cette méthode syllabique. Parce que en formation initiale, ils n'ont pas fait cette formation sur la méthode syllabique. Ils ont fait la formation sur les méthodes actives et sur la méthode curriculaire. Alors, méthode active, méthode curriculaire, moi je crois que lorsqu'on innove, lorsqu'on amène une méthode, si nous voulons que cette méthode soit une méthode qui soit efficace sur le terrain, il faut d'abord former les enseignants en formation continue sur la méthode. Si cela n'est pas fait, il va y avoir problème de l'application. Donc le gouvernement, le ministère de l'Éducation a du pain sur la planche. Et nous qui sommes enseignants, qui sommes appelés à appliquer cette méthode aussi, nous en avons du pain sur la planche.
Alors, nous allons rejoindre Mohamed Aguissa. Mohamed Aguissa, vous êtes à Gao?
À Tombouctou.
Alors, à Tombouctou, comment est-ce que vous êtes, c'est vrai, du secondaire, mais je sais que ce qui se passe au niveau du primaire vous intéresse aussi. Cette nouvelle annoncée, à savoir le retour de la méthode syllabique, vous, comment est-ce que vous la voyez? Comment vous l'appréciez?
Cela nous réconforte dans notre conviction que nos autorités ne font que du tâtonnement. C'est-à-dire qu'ils ne font que changer chaque fois des méthodes parce qu'il y a un partenaire qui arrive, qui leur propose quelque chose, il y a un financement, on n'essaie même pas de regarder les fonds, comme l'ont dit tout de suite nos deux prédécesseurs, et on l'applique parce qu'il y a des fonds. Et quand ces fonds arrivent, il y a un autre qui vient, il propose autre chose, on dit, bon, on laisse ça, on passe à autre chose. Il faut que ça s'arrête, il faut que les Maliens fassent un choix, qu'on sache quel type de citoyen malien on veut former.
Mohamed Aguissa, beaucoup saluent quand même les retours.
J'arrive. Non, en réalité.
Allez-y.
Comme il a dit, nous, syndicats, on a toujours décrié même l'abandon en réalité de cette méthode-là. Et aujourd'hui, ils reviennent pour nous dire que vous avez raison. Pourquoi nous avons raison aujourd'hui? Nous avons raison parce que je pense que aujourd'hui, ceux qui ont financé les méthodes convergentes, comme ils les appellent, je ne sais pas trop, en tout cas, ces méthodes qu'ils veulent aujourd'hui abandonner, ceux-ci ne sont plus prêts à financer ces méthodes-là. Donc, ils reviennent à cette méthode classique que tout le monde connaît. C'est aussi clair que c'est là. Donc, il faut arrêter ça. L'école, c'est notre bien commun. Ça ne doit pas être pris en otage par des financements, n'est-ce pas, qui viennent en réalité pour faire de nos enfants un terrain d'expérimentation.
Mohamed Aguissa, beaucoup saluent quand même le retour de cette méthode, mais est-ce que pour cela, il ne fallait pas un travail en amont? Est-ce que vous avez senti ce travail en amont?
C'est ce que je vous disais tout de suite. Je disais que le ministre n'a fait aucun travail en amont. Ce ne sont que des slogans. Ils n'ont impliqué personne, en tout cas. Nous, syndicats, en tout cas des régions du Nord, on n'a pas été impliqués, on n'a pas été formés dans ce sens-là. Donc ce ne sont que des déclarations de bonne intention. C'est tout. Des slogans creux, quoi.
Nous retrouvons vous, Kumba Yarissi, vous qui êtes dans ce studio et qui êtes donc enseignante à la retraite. Oui. Nous avons parlé de régions du Nord, notamment Gao, Tombouctou, mais on n'oublie pas qu'à Kidal, il n'y a toujours pas quand même de rentrée scolaire, l'avenir des enfants. Excusez, l'avenir des enfants donc semble quand même pris en otage par l'insécurité. C'est vraiment bien triste, madame.
De toute façon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous avez omis une grande partie aussi, la partie centre, la région de Mopti, ce n'est pas tout le monde qui va à l'école en ce moment. Donc nous avons une bonne partie du pays qui est confrontée à ce problème. Et même au sud, il y a un autre problème, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Parce que ceux qui sont partis, il y en a qui sont partis dans d'autres pays, mais il y en a d'autres qui sont au sud. Donc, il y a des enfants, j'ai lu quelque part que la passerelle sera de mise. On va recourir à la passerelle pour remédier, aux problèmes concernant ces jeunes enfants qui sont partis du Nord. Donc, quand on revient à la question, il y a quelques années, la ministre Jacqueline, nous, on avait préparé le protocole de Florence. Le protocole de Florence consiste en quoi? Tous les pays signataires du protocole de Florence peuvent se fournir en matériel scientifique, à caractère culturel ou autre, à moindre coût, dont les ordinateurs, par exemple. Donc, la loi est sur la table de l'Assemblée. Et ça fait longtemps. La loi n'a pas été adoptée, encore moins le décret d'application. Je parle de cette loi parce que je crois qu'aujourd'hui, Internet peut suppléer à certaines de nos difficultés. Imaginez au centre ou au nord du pays. Il y a quand même des enseignants. Il y en a qui sont engagés à accompagner les enfants. Il y a des élus, il y a des ONG, il y a Barkhane, il y a l'AMUNISMA. Barkhane, l'AMUNISMA, plus les autres partenaires, en l'occurrence l'UNESCO, l'UNICEF, les grandes ONG américaines et autres, peuvent quand même nous aider à acquérir des ordinateurs pour les enfants et les enseignants, former les enseignants, si ce n'est déjà fait, à Internet, et de cette façon, même à la maison, et quelle que soit l'heure, ces enfants peuvent prendre leur cours et on peut les évaluer parce qu'ils seront connectés à des enseignants.
Alors, madame, donc, je souhaite que vous soyez vraiment entendu. Maintenant, je m'adresse à vous, Soumaïla H. Maïga, vous au SNEC, est-ce que vous n'êtes pas, certainement pas indifférent quand même au sort des enfants de Kidal en ce jour de rentrée scolaire?
Merci bien. En ce jour de rentrée scolaire, nous au SNEC, nos corps vibrent parce que nous sommes enseignants et notre matière à travailler, c'est l'élève. Nos corps vibrent parce que aujourd'hui, ces enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, ces enfants n'ont pas la chance de se retrouver, de jouer, de voir leur enseignant, de voir leurs camarades. Comme madame l'a dit, il y a une partie de Mopti aussi qui est dans le lot où la majorité des enfants aussi ne vont pas à l'école.
Pour raison d'insécurité.
Donc nous sommes tristes pour tous ces enfants qui ne vont pas à l'école. Nous lançons encore un cri d'alarme à l'État, à ceux qui nous aident pour que ces enfants puissent un jour ou bien bientôt regagner les classes.
Nous allons du côté de Tombouctou pour retrouver donc Mohamed Aguissa. Mohamed Aguissa, les primaires certainement, c'est la reprise à Tombouctou, vous vous trouvez, mais ce n'est vraiment pas du tout le cas à Kidal. Là, je crois que c'est quelque chose qui vous marque en tant que parent d'élève.
Ils sont vraiment tristes par rapport à cette situation. Et c'est pourquoi nous, au sein du collectif, par solidarité, chaque fois qu'on parle de Tombouctou Gao, on parle aussi de Kidal. Souvent, les gens nous disent, mais Kidal n'existe pas. On a dit, bon, pour nous, Kidal existe. Et c'est notre façon, en tout cas, de leur témoigner notre solidarité pour qu'on ne les oublie pas, enfin. Parce que finalement, quand on tout le monde dit qu'il y a rentré partout sauf à Kidal, quand même dans des discours officiels, on dit qu'il y a la rentrée partout sauf à Kidal, ce message vise à faire passer, n'est-ce pas, ce discours vise à faire passer ce message-là dans la tête de l'opinion pour nous préparer à je ne sais quoi, que Dieu nous en préserve. Donc c'est pourquoi nous parlons de Kidal comme étant toujours une partie du Mali. On ne dira pas la rentrée partout sauf à Kidal. Donc c'est un peu notre façon d'exprimer notre solidarité envers nos frères de Kidal pour leur dire que nous ne les oublions pas. Et nous nous insurgeons aussi contre ce discours-là qui consiste à dire, à se satisfaire de la rentrée partout, sauf à Kidal. Parce que quand on entend des messieurs les ministres, on sent même de la joie, comme s'ils brandissent un trophée de guerre. Il y a eu la rentrée partout, sauf à Kidal.
Alors, c'est une interprétation, monsieur.
Non, bon, d'accord, bien que c'est une interprétation. Je l'assume aussi. Et ça nous fait mal aussi, cette façon de faire les choses. Il faut créer les voies de manger. Je vous dis, nous, au niveau de notre collectif, à un moment donné, nous avons exploré les voies et moyens pour que Kidal puisse rouvrir cette année. Mais on n'a pas été accompagné par les autorités. On a touché tous les gouverneurs, tous les ministères même, on leur a fait cas de notre intérêt, que nous sommes prêts à aller voir l'aménocat de Kidal, en tout cas, pour plaider la cause des enfants de Kidal, en tant qu'enseignant, en tant que parent d'élèves, en tant que malien tout court, en tant que frère. Mais on n'a pas réussi leur accompagnement. Donc c'est pourquoi quand moi j'entends ce discours qui consiste à dire que la rentrée est une réussite partout sauf à Kidal, c'est pour moi insatisfaisant pour le monsieur le ministre. Et ça, on doit arrêter de tel discours. Il faut faire en sorte qu'il y ait école à Kidal.
Nous retournons dans ce studio. Kumba, hier ici, il y a des problèmes au niveau de l'école malienne, mais il y a un facteur qui est là, c'est que le nombre d'établissements privés ne cesse de croître. Alors, il y a donc plus d'établissements privés à ce jour que publics. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un facteur positif ou négatif?
Je parle sous le contrôle du syndicaliste. Vous prenez, on prend le système dans son ensemble. L'école maternelle, je ne sais pas combien d'écoles maternelles le Mali a-t-elle. Je ne sais pas si ça fait 1%, parce que de toute façon, le Mali, dans sa politique éducative, dans ses politiques éducatives, ne s'est pas imposé la formation, la prise en charge des enfants à partir de 3 ans. Vous allez à les écoles fondamentales, il paraît que c'est 27% pour l'État. Le secondaire, c'est plus de 60% pour les privés. Et la grande peur aujourd'hui, c'est la multiplication des écoles de commerce, des universités privées un peu partout. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'État gère comme école si la plus grande partie revient au privé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échec du système scolaire, c'est aussi l'échec de la privatisation. Une privatisation qui nous a échappé, une privatisation qui a tendance à devenir sauvage. Donc si on y prête, si on y prend garde, la situation va déborder et on ne pourra jamais la rattraper. Parce qu'il faut, excusez-moi, pour cela, il faudrait rapidement que, si on ne peut pas créer un secrétariat d'État, il n'y a pas de secrétariat d'État chez nous, il n'y a pas de ministère délégué, il faudrait qu'on crée une grande direction nationale dédiée à l'enseignement privé, de la maternelle à l'université.
Alors, Soumaïla H. Maïga, au SNEC, comment est-ce que vous
voyez
ce problème?
Au SNEC, nous voyons cet état de fait comme étant une privatisation du système éducatif. C'est vrai, les privés, les écoles privées apportent de la valeur ajoutée.
Oui, mais est-ce que cette privatisation est accompagnée des mesures
d'accompagnement? Oui,
mesures d'accompagnement après ce...
J'en viens. J'ai dit, nous pensons que c'est le système éducatif même qui est en train de se privatiser. Parce qu'aujourd'hui, madame l'a dit, les privés sont devenus des écoles de commerce. N'importe qui s'élève, il crée une école privée. Il y a même des écoles privées fantômes qui n'existent même pas, qui n'existent que peut-être de nom, sur papier, mais sur le terrain n'existent pas. Aujourd'hui, on prend une petite chambre, on la transforme en école privée, au détriment des droits des enfants. Parce qu'une classe, c'est quoi? Une classe doit être quand même, doit respecter les normes éducatives.
Mais il y a un certain contrôle quand même. Est-ce qu'on peut...
Le contrôle, mon frère, j'ai dit, le contrôle dont on parle n'existe pas. Nous, dans notre plateforme revendicative, cette question des privés a bel et bien sa place. Et nous avons demandé à ce que toutes les écoles privées qui n'ont pas d'agrément et qui n'ont pas d'autorisation d'ouverture soient carrément et totalement fermées. Nous l'avons demandé dans notre plateforme et nous avons dit ça aux délégués des 6 ministères qui nous représentent.
Vous avez la chance d'être entendu?
Nous avons la chance d'être entendu. Et des précautions doivent être prises pour cette rentrée, pour que des contrôles soient faits au niveau de toutes les écoles privées et ceux qui n'ont pas d'agrément seront fermés.
Alors, qu'est-ce que les syndicalistes que vous êtes font pour aider les enseignants qui officient dans les écoles privées?
J'en viens. Je vais répondre à sa question.
Juste en quelques secondes. Alors.
Les enseignants qui évoluent dans ces écoles privées-là sont nos syndiqués. Nous avons une grande section nationale des écoles privées. Les enseignants des écoles privées. Mais nous avons constaté que ces enseignants des écoles privées vivent dans une précarité totale. Il y a des enseignants qui sont payés à 15 000 francs. Il y a des enseignants, la majorité de ces enseignants ne sont pas inscrits à l'INPS. C'est pourquoi nous avons demandé qu'une convention collective soit dédié à leur nom.
Voilà,
Les autorités nous ont bien entendu, ils ont accédé à notre requête. Bientôt, une convention collective sera dédiée à ces enseignants.
Il faut qu'on les forme dans les mêmes écoles que vous.
Mohamed Aguissa, la prolifération des écoles, des établissements privés, c'est une réalité au Nord aussi, non?
Les écoles privées, effectivement, depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas comme au Sud, mais ça existe quand même au Nord ici. Et je pense que, comme l'a dit M. Maïga, je pense que le travail doit se faire surtout au niveau du contrôle. Et c'est à ce niveau-là que les autorités, en tout cas les services techniques, les académies d'enseignement, doivent faire le maximum de sérieux pour regarder ce qui se passe au niveau de ces écoles-là.
Voilà.
La qualité donc, de l'enseignement.
Merci Mohamed Aguissa. Merci Mohamed Aguissa. C'est sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce lundi. Nous allons donc nous retrouver demain mardi pour un autre sujet. À demain donc.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Demandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.